voyant une lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant les lectures d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, je crois que c'est Hervé qui a choisi le livre. Bonjour à tous les deux.
Exactement. Bonjour.
Alors ce choix, Hervé.
Eh bien, pour cette rentrée littéraire de septembre, nous allons essayer de faire, de vous présenter un roman graphique.
Un roman de la rentrée.
Pas tout à fait, mais assez récent quand même. Et alors, un roman graphique, ça risque d'être compliqué. Alors, ce roman graphique s'appelle « Le monde sans fin », coécrit par Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain aux éditions d'Argo en 2021. Et donc, je le dis bien, on va essayer, car lire un roman graphique, surtout à la radio, n'est pas si évident que cela.
C'est-à-dire que c'est le mot graphique, on ne sait pas quoi en faire.
Oui, oui, on sait lire de l'écriture, mais lire des dessins, c'est beaucoup plus difficile.
Comme quoi, on aime bien la difficulté. Et donc, comment tu vas t'y prendre ?
Eh bien, a priori, on va s'y prendre comme d'habitude, à savoir qu'on va lire, Catherine et moi, des dialogues, en prenant, puisqu'il y a deux personnes, c'est assez pratique. Mais ça sera peut-être moins intéressant parce que, comme dans un roman, il n'y a aucune description, il n'y a pas de description de lieu, d'action, ni rien. Quoi. Là, ça se cantonne à un dialogue.
Voilà.
Ouais. Oui, on peut décrire les images, peut-être.
Alors, pour décrire les images, on change de livre et on prend les yeux de Mona. Les descriptions sont fabuleuses. Ah, ça, rien à voir. Ouais.
Bien, présente-nous un peu les.
Ça sera Catherine,
protagoniste,
parce qu'on l'a préparé comme ça, hein, tout simplement, qui va lire Christophe Blain, à savoir le dessinateur, et puis moi, je me réserve évidemment le bon rôle.
Modestement.
Modestement.
Le rôle du scientifique.
Alors, le rôle du scientifique, Jean-Marc Jancovici. Mais je précise tout de suite, c'est pour ça que j'ai endossé le rôle, tu vois, Catherine, il est quand même controversé.
Pas en tant que scientifique, c'est un réel scientifique. C'est ses théories.
C'est ses théories, voilà. Oui, oui. Ses conclusions qui le sont. Voilà.
Et c'est parce qu'il est polytechnicien que tu as choisi le rôle.
Exactement.
Hein, c'est un vieux rêve à toi, peut-être. Fais polytechnique.
S'il te plaît, sois poli.
Mais en dehors d'être polytechnicien, il est quand même le créateur du bilan carbone et qu'il a développé pour l'Agence de l'environnement et du développement de l'énergie.
Et voilà. Alors voilà. Là, on se retrouve avec un thème, avec quelqu'un qui est un fervent défenseur de l'environnement. Ce n'est pas pour nous déplaire tous les trois, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Exactement. Tout à fait. Il y en a même l'un de nous, je crois, qui doit faire partie d'une association locale.
Un collectif citoyen, monsieur.
Ah, un collectif citoyen.
Très important.
En charge de produire de l'énergie verte.
Je pense qu'il y a sûrement des très bonnes émissions de Studio ZEF sur Blaise Watt.
Il y en a au moins deux, à ma connaissance.
D'accord. Donc, c'était Blaise Watt.
C'était la page de pub.
Blaise Watt, alors petite page de pub. Blaise Watt qui va fêter ses 5 ans les 13 et 14 septembre avec la projection d'un film au cinéma Les Lobbies, notamment le vendredi 13. Fin de la page de pub.
Et donc, on peut reprendre sur Jean-Marc Jancovici.
On peut.
Effectivement. Et donc, on prévient tout de suite les auditeurs pour la suite de l'émission. Il a des conclusions qui pourraient surprendre.
Oui. Alors, oui.
Surprendre, non, mais c'est
une logique.
Il y a une catégorie de scientifiques qui pensent comme lui et il y a toute une autre catégorie scientifique qui ne pense pas du tout.
Voilà, c'est voilà. Ça. Voilà. Alors,
eh bien, continue.
On essaye.
On va essayer.
On y va.
Allez, on n'a pas peur.
Donc, je suis Jean-Marc Jancovici et je montre sur la page une énorme bulle où il y a écrit énergie et dessous il y a un Iron Man.
Et moi j'endosse le rôle de Christophe Blain, le dessinateur, donc c'est moi qui crée les dessins que vous ne voyez pas, c'est important quand même.
Le roman graphique à la radio.
C'est très beau, hein.
Et donc chacun va essayer de lire quelques bulles, c'est
voilà,
ça
voilà.
Allez, vas-y Catherine, lance-toi.
Alors,
Tu es avec, Iron Man.
Exactement. Donc avec cette armure, je peux voler super vite et super haut, voire super loin, creuser super profond, porter ce que je veux, ne jamais avoir froid ni chaud. Communiquer ce qu'on veut à qui on veut, quelle que soit la distance. Je peux même détruire ce que je veux. Je peux la garder, l'armure, please?
C'est addictif, n'est-ce pas?
Bah, on peut plus s'en passer, hein.
Mais alors, ça marche à quoi?
Oh, dis donc, ça doit coûter bonbon, non? Bah, 5% de ce que je gagne, si tu veux le savoir. 5% de ce que je gagne. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, l'énergie lumineuse bleue magique qui fait tourner Iron Man coûte 5% de ce que je gagne.
L'énergie bleue, hein, c'est pour Iron Man, le personnage de fiction, on est bien d'accord, de Marvel. Ben, tout ce que tu viens de faire avec ce costume d'Iron Man, c'est tout ce que nous faisons dans notre quotidien. L'énergie que nous utilisons pour le faire nous apparaît trop souvent comme un chiffre en bas d'une facture, par exemple.
Éteins la lumière derrière toi, c'est pas Versailles ici. Oh, le carburant est trop cher. Bah oui, notre facture d'énergie, ça donne quoi cette année?
L'énergie paraît toujours trop chère. Alors que la dépense de fuel, de gaz, d'électricité, d'essence représente entre 5% ou 7% des revenus des ménages de France. À l'échelle mondiale, le coût d'achat des croquettes pour Iron Man, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz, représente moins de 5% du PIB.
Et l'électricité?
L'électricité, tu ne la trouves pas dans la nature, tu la fabriques avec une énergie primaire. Et on appelle primaire les énergies disponibles dans la nature. Sais-tu? J'allais dire Catherine.
Non, moi, c'est Christian, excuse-moi. Mais...
Sais-tu, Christian? Sais-tu que la SNCF est le premier consommateur électrique de France? À elle seule, elle consomme 1,5% de l'électricité française. Oui, avec ses filiales de transport routier, Géodis, les bus Keolis, sans compter les TER. Elle est aussi l'un des premiers consommateurs de gasoil. L'ensemble de l'achat énergie représente moins de 5% de ses coûts. Retire-lui son approvisionnement en électricité et en carburant, son chiffre d'affaires devient nul. 100% de sa valeur dépend de 5% de ses coûts. Les raisonnements que l'on tient à propos de l'énergie sont à peu près aussi pertinents que celui-ci. Ton cerveau ne représente que 2% du poids de ton corps. Mais si on enlève la moitié, ce n'est pas bien grave. Ce n'est que 1%. Bah oui.
Attends, l'Iron Man de Marvel, il se débrouille avec son énergie bleue pour qu'elle ne pollue pas. On pourrait pas faire un Iron Man genre renouvelable?
Et il y a 300 ans, toutes les énergies étaient renouvelables. La marine était 100% renouvelable. Mais on est passé à la marine au charbon, puis au pétrole, parce que pour livrer les fringues de chez H&M, c'est plus rapide. On avait des transports routiers 100% renouvelables. Mais pour faire venir les pêches du sud-ouest à Paris, utiliser du pétrole est quand même plus efficace. On avait une agriculture 100% renouvelable. Les gens mangeaient des patates et des oignons, ils avaient mauvaise haleine. Pour manger du steak à tous les repas, c'est mieux d'avoir une agriculture 100% fossile. On avait des travaux publics 100% renouvelables. Il fallait 200 ans pour construire Notre-Dame. Mais grâce aux énergies fossiles, il faut un an pour construire une tour de la Défense. On avait également une industrie 100% renouvelable. Mais on s'est dit que pour faire le dernier smartphone à 20 euros, ce n'était pas efficace. Alors, ça fait 200 ans que nous passons notre temps à remplacer les énergies renouvelables par des fossiles. Alors,
soit nous sommes des idiots, ce qui se discute.
Soit il y a des raisons physiques profondes.
Bon, après tout, moi je dessine, j'écris, j'ai pas besoin de grand-chose. Si ce sont mes super-pouvoirs, je m'en contente.
Sans rire, tu imagines que tout ce bazar, là, juste à côté de toi, c'est-à-dire l'ordinateur, le portable, l'imprimante, la lampe pour l'éclairer, Ça peut se faire juste par une opération du Saint-Esprit. Mais comme nous en sommes complètement dépendants et qu'elle est invisible, nous oublions ce qu'est vraiment l'énergie. L'énergie, c'est un flux physique. L'énergie, c'est ce qui quantifie les changements d'état d'un système. N'importe quelle chose qui change de température, qui change de vitesse, qui change de forme. Compter l'énergie, c'est compter la transformation du monde qui nous entoure. C'est une grandeur physique qui est régie par des lois qui ne dépendent pas de nous.
Et ça, ça nous emmerde.
Exactement, parce qu'on a pris l'habitude avec ce siècle de progrès technique et de diffusion abondante de l'énergie de tout contrôler, de repousser les limites. La première loi de l'énergie, et tu pourras faire voter tout ce que tu veux, tu ne parviendras jamais à la changer ou à l'abroger.
Et cette loi, c'est ?
Cette loi, c'est la loi de la conservation. À l'intérieur d'un système qui ne communique pas avec l'extérieur, on ne peut ni créer ni détruire de l'énergie.
Tu veux dire que dans un système vivant ou inerte, isolé du reste du monde, l'énergie qu'il contient ne pourra jamais varier ? Tu peux donc tout modifier, créer, détruire, si tu es Harry Potter, Merlin l'Enchanteur ou éventuellement un chevalier Jedi ?
Imagine une baignoire. Tu ne peux pas rajouter de l'eau dans la baignoire si elle ne communique pas avec l'extérieur. Et l'extérieur, ça s'appelle le robinet. Si une machine, tu ne la branches sur rien, elle ne marche pas. Ce qui signifie que si nous autres humains voulons plus d'énergie que celle que nous pouvons fournir avec notre propre corps, nous sommes contraints de l'extraire de l'environnement.
Mais par exemple, comme j'aime beaucoup faire du sport, je me suis dit que je pourrais pédaler dans ma journée pour produire de l'électricité.
Comme dans Soleil Vert. Ce n'est pas une énergie que tu consommes directement, c'est la machine qui la consomme. À partir de maintenant, pense que consommer de l'énergie, c'est en fait utiliser une machine. Utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Par exemple, pour chauffer l'eau de la baignoire, par exemple, pour se transporter dans le métro, en avion, prendre un escalator, monter dans un ascenseur. Tu ne vois qu'une petite partie de ton utilisation de machine. Quand tu t'es habillé ce matin, tu as utilisé une quantité ahurissante de machines.
Ah bon ?
Eh oui, la moissonneuse pour le coton, les tracteurs dans les champs, les camions qui ont transporté tout ça jusqu'aux filatures, les usines de produits chimiques qui ont fait la teinture. Tes chaussettes comportent du synthétique provenant d'un dérivé de pétrole. Tu as donc utilisé une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocrateur.
Ouais, stop, là, je me suis habillée, c'est tout.
Oui, oui, et pourtant, tu te brosses les dents devant ta glace, n'est-ce pas ?
Mmh.
Eh bien, tu as utilisé une usine chimique qui a fabriqué un sucre qui ne donne pas de caries pour que ton dentifrice ait bon goût et qui s'appelle le sorbitol. C'est une amidonnerie dans laquelle tu fais entrer un train complet de wagons chargés de maïs tous les jours.
Et alors ?
Il en ressort des centaines de produits chimiques différents. Des milliers de personnes y travaillent. Il y a une amidonnerie dans le nord de la France. C'est une des plus grosses usines chimiques nationales. Ton tube en plastique, ton tube de dentifrice est en plastique, donc. À nouveau, donc, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapocrateur.
Je vais faire ma pâte pour les dents moi-même maintenant.
Je continue. Une extrudeuse pour faire le plastique. Tu t'es lavé les dents devant un miroir.
Non, je ferme les yeux.
Eh bien, ce miroir comporte du cuivre, de l'argent, du verre et donc des mines d'argent, de cuivre, des usines à verre, du transport, des appareils pour purifier l'eau. Tu passes un coup de fil ? Eh bien, il faut du plastique, de l'acier pour les supports d'antenne. Figure-toi qu'il y a 40 métaux différents dans ton smartphone. Tu savais ça? Des engins à passer des câbles pour le réseau. Tu mobilises des milliers de machines pour la fabrication et le fonctionnement de ton appareil. Sans énergie, sans machine, ce n'est pas 3% du PIB que tu vas perdre. C'est la fin des banques, la fin du réseau d'eau, la fin des transports, des hôpitaux. Tout notre monde moderne en dépend. Tu meurs de froid, tu meurs de froid, de faim. Tu t'entretues avec tes semblables. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi les machines sont surpuissantes par rapport au corps humain. Prends un sac à dos de 10 kilos et monte un dénivelé de 2000 mètres.
Je te fais pas ça en un jour. Hein.
C'est certain. Et dans quel état seras-tu le soir? Sais-tu combien tes jambes ont produit de kilowatts dans cette journée?
Oh bah beaucoup.
Énormément. Et 0,5 kilowatts.
Oh bah c'est rien du tout.
Fais un peu de terrassement maintenant. Décaisse 15 tonnes de terre, soit 6 mètres cubes.
Alors ?
Eh bien, tu as fourni 0,05 kilowatts. Un travailleur de force peut fournir entre, et je dis bien de force, hein, entre 10 et 100 kilowattheures d'énergie mécanique par an. Alors qu'un litre d'essence au prix démesuré de 1,50€, 1,60€. Si tu le brûles, tu obtiens 10 kWh d'énergie thermique. Tu le fais passer dans un moteur, tu obtiens 3 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans 1 litre d'essence, tu as la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Cette énergie est incroyablement peu chère par rapport aux gains qu'elle apporte. Si tu es payé au SMIC juste pour te servir de tes muscles, celui qui t'a payé pour transformer l'environnement et monter ton sac de 10 kg à 2000 mètres d'altitude a dépensé 200€ par kilowattheure. Ça lui aurait coûté 500 fois moins cher avec de l'essence dans une machine. Si tu creuses la transformation de l'environnement, est payé 2000€ par kilowattheure. L'essence de la machine qui fait le même trou te coûte 5000 fois moins cher. Prends un vélo maintenant. Disons que tu peux faire 4000 mètres de dénivelé en 10 heures. C'est énorme.
Ça fait 4000 mètres de dénivelé.
Ouais,
donc tes jambes vont développer une puissance moyenne de 100 watts. Eh bien, prends un mixeur à soupe. Au moment où tu l'actionnes, ça représente 4 cyclistes en train de pédaler. Un aspirateur, 10 cyclistes.
Un ascenseur,
50 cyclistes.
C'est tard, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. C'était, t'en souviens-tu, l'odeur d'un matin nu, d'un mari dévêtu. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va, et tu le retrouveras. Cet air, t'en souviens-tu, se perdre dans les rues, dans un son. Cet air, t'en souviens-tu, souffler le soir, souffler le soir vers ceux qui ne sont plus. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Tu le retrouveras. un rêve qui m'étreint, toute la chaleur des tiens, la douceur de sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
Bien, alors tu nous as converti la force d'une machine en nombre de cyclistes, c'est assez parlant.
Tout à fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans tous nos gestes de la vie quotidienne, on consomme énormément d'énergie, même les plus vertueux d'entre nous, n'est-ce pas?
Oui, et nous sommes vertueux.
Et nous sommes vertueux.
La preuve, on parle à la radio et ça demande de l'énergie.
Absolument.
Tiens, c'est vrai au fait.
Bon allez, on se tait.
Et j'ajoute que le bouquin est très complet, puisqu'il fait donc 192 pages au total. Il est très gros, hein. Par contre, à la fin, ça fait beaucoup de chiffres qu'il est difficile d'avaler d'un coup. Personnellement, je n'ai pas pu le lire d'un seul coup. En fait, je conseille d'avoir ce bouquin.
Il est gros. Et de s'y référer de temps en temps.
Et de s'y référer de temps en temps, oui. C'est la meilleure chose à faire, tant il est complet. Si on cherche quelque chose, n'empêche, on est à peu près sûr de trouver les renseignements qu'on cherche. Évidemment, dans ce domaine des énergies.
Oui. Bien, un petit mot sur Jean Covici, peut-être.
Eh bien...
C'est quoi, Wikipédia?
Oui, exactement.
Tu en es vers Wikipédia, comme tout le monde.
Il est né en 62, mais ça, tout le monde s'en fout.
Oui.
Il est d'abord diplômé de l'école polytechnique, on l'a dit tout à l'heure, donc. Et en 2018, il devient membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre. Et donc, il s'est engagé en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, en particulier dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il milite notamment pour la taxe carbone. La taxe carbone, c'est un peu lui. Et la production d'énergie nucléaire civile, on en discutera tout à l'heure, position qui lui attire des critiques. Selon lui, les modèles de société occidentale est voué à la décroissance car leur système économique dépend de trop d'énergie provenant essentiellement des combustibles fossiles et tout cela n'est pas pérenne. Et donc il commence à s'intéresser au réchauffement climatique dans le courant des années 90 et développe l'idée donc du bilan carbone dont tout le monde connaît ce terme maintenant. Et donc, il travaille entre autres pour des très grosses entreprises au début, et notamment pour l'ADEME, Agence pour la transition écologique. Exactement, voilà. En 2007, il cofonde Carbone 4, un cabinet de conseil qui vend des bilans carbone aux entreprises et construit donc leur plan d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Carbone 4 se développe particulièrement avec la conférence de Paris de 2015, la COP21. En 2007, il cofonde Carbone 4, un cabinet de conseil qui vend des bilans carbone aux entreprises et construit leur plan d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit donc du premier cabinet de conseil en stratégie carbone. Carbone 4 se développe particulièrement à la conférence de Paris en 2015, la fameuse COP21. Et ses principaux clients sont des très grosses entreprises françaises telles que Bouygues, EDF, Engie, Lafarge, etc., etc.
Donc, en matière d'économie d'énergie, il connaît un petit peu quelque chose quand même.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, il est très controversé et on verra tout à l'heure pourquoi. Mais la suite du bouquin est extrêmement claire. Si tu veux une énergie très concentrée, avec peu de barrières séparant l'accès à la source et facile d'utilisation, il n'y a guère que le pétrole. Comme les éoliennes, les panneaux solaires ou toutes les énergies dites renouvelables consomment beaucoup d'espace, elles ne peuvent pas remplacer efficacement le pétrole. En plus, ces énergies ne fonctionnent que quand il y a du vent, du soleil, de l'eau. En dehors de ces éléments naturels, elles nécessitent du stockage, c'est-à-dire des batteries, c'est-à-dire des minerais fossiles en très grande quantité. Ces énergies dites renouvelables ne viennent pas en remplacement des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, mais simplement en complément.
En fait, autrement dit, nous sommes là en 2024 à la fin d'un monde en expansion rapide. Et mon fameux Iron Man ne peut plus s'agrandir et devenir encore plus puissant. Hein ?
Et là, tu commences à nous faire peur.
Mais donc, Dominique, c'est pas moi. Ce sont les propos argumentés d'un scientifique qui essaie, à travers ce roman graphique, de vulgariser ses conclusions.
Mais s'il n'y a pas de solution pour remplacer le pétrole, si on veut garder une énergie efficace pour maintenir le progrès économique, on va dans le mur.
À plus ou moins long terme, oui. Tout au moins, c'est ce qu'il dit. Mais je vous propose maintenant de reprendre le fil de notre lecture. Et là, je dois ajouter ce roman graphique, donc, qui est énorme, on l'a dit tout à l'heure, est séparé en deux grands chapitres. Le premier, celui qu'on vient de découvrir, est donc sur les énergies. Et le second s'intitule « Le climat ». Lorsque les arbres croissent, la taille des racines augmente et donc le CO2 contenu dans le sol aussi. Si on déracine les arbres et qu'on supprime les forêts, le retour du CO2 dans l'atmosphère s'accélère. Exemple, la déforestation en Indonésie pour la culture de l'huile
de palme.
De palme.
Et les terrains agricoles sont constitués de plantes qui absorbent le CO2.
Oui, mais deux fois moins vite que les forêts qu'ils remplacent. La reprise du CO2 à l'atmosphère dépend des conditions du moment. Elle n'est pas garantie pour l'éternité. Si la température augmente, la capacité des océans à absorber le CO2 est moins bonne. Si les écosystèmes sont détruits, abîmés, asséchés, brûlés, c'est pareil. Alors,
l'augmentation de température favorise les incendies et la sécheresse.
Oui, c'est encore le phénomène d'amplification. Depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis qu'on joue avec les machines à vapeur, la température moyenne sur Terre a augmenté d'un peu plus de 1 degré. Avec la quantité de CO2 qu'on a déjà émise et celle qu'on pourrait émettre d'ici la fin du siècle, la température moyenne pourrait gagner 2 à 5 degrés par rapport à 1900.
Ça veut dire qu'il fera plus chaud de 2 à 5 degrés toute l'année, partout sur Terre ?
Non, la température montera plus vite au pôle. Par exemple, en Sibérie, si on compare la moyenne des températures du mois de mars entre 1950 et 1980 avec celle de 2020, on a gagné 8 degrés. La température la plus chaude jamais enregistrée au pôle Nord est de 25 degrés en mai 2020, alors que le précédent record est de 13 degrés.
Mais ça va fondre !
En France, la température moyenne a augmenté de 1,5 degrés contre 1,2 degré pour le reste de la planète. La température augmentera de 1 à 1,5 à 2 fois plus vite sur les continents que dans les océans. Avec le réchauffement global, nous gagnerons plutôt entre 5 et 10 degrés. Les températures augmentent encore plus violemment dans les épisodes extrêmes. Les pics de canicule ont observé des augmentations de 4 degrés par rapport au précédent record. Il y en aura de plus en plus et sur de plus en plus longues périodes. Paradoxalement, on conservera des épisodes de froid extrême.
Mais moins souvent, en fait.
Exactement.
En fait, les secousses seront plus fortes.
Les océans chargés en CO2 vont s'acidifier. Ça va poser un problème de calcification des coquilles et des squelettes pour une partie du plancton. Les massifs coralliens qui abritent 25% des espèces marines en souffrent aussi. Ça met une pression supplémentaire sur la vie océanique. Et c'est compté sans la pêche intensive. Le Groenland a commencé à fondre et ça va continuer quoi qu'on fasse à cause de l'inertie du système. Le niveau des océans va monter, beaucoup de villes côtières vont être partiellement englouties.
Oui, mais ça c'est dans quelques générations, ça va venir très lentement, on s'y adaptera progressivement, non ?
La montée du niveau des eaux est déjà commencée, les dégâts se manifestent à l'occasion des phénomènes extrêmes, ouragans, tempêtes, qui conduiront la mer à franchir les défenses, digues, dunes. D'ici 2100, la fréquence de ce genre de catastrophe pourrait être multipliée par plusieurs centaines sur de nombreuses côtes. pense à la tempête Katrina. Tu peux ajouter la salinisation des nappes phréatiques en bord de mer. Le permafrost désigne des terres gelées dans le Grand Nord, en Alaska, en Sibérie ou au Canada. Il recouvre 20% de la surface terrestre.
Et il a commencé à fondre et à libérer du CO2, du méthane en quantité mal évaluée, non ?
Oui, et ça accélère encore le réchauffement climatique.
Et il contiendrait aussi des virus en sommeil, on dit.
Sa fonte risque de libérer des phénomènes inattendus. Les infrastructures, souvent les exploitations minières et pétrolières construites sur le permafrost, peuvent être déstabilisées par sa fonte. En juin 2020, un réservoir d'une des usines Norilsk Nickel s'est effondré en répandant plus de 20 000 tonnes de diesel dans l'environnement.
Ouais, c'est la plus grosse catastrophe environnementale de l'Arctique. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver en premier ? Dans combien de temps ? Il est possible de te répondre à ça ? Possible ?
C'est impossible de te répondre. On va s'aventurer dans des plages jusqu'alors, jusqu'alors inexplorées. Des combinaisons sont très complexes. On ne peut pas demander à la science de décrire sur le menu tout ce qu'on risque avant de se bouger les fesses. La surface cultivable par personne est passée de 1,6 hectare en 1960 à 0,6 hectares actuellement. Ça n'a pas été un problème parce qu'on avait des tracteurs et des engrais.
Mais alors, que se passe-t-il le jour où, dans un monde à l'énergie contrainte, on ne dispose plus aussi facilement de ses avantages alors que le climat devient moins favorable ?
Le rapport du GIEC sur le changement climatique suggère qu'à partir de 3 degrés de réchauffement, l'insécurité alimentaire devient généralisée sur toute la planète. Dans les forêts du centre de la France, avant 2040, une partie des arbres mourra de sécheresse, de maladies, d'incendies, d'agressions d'insectes ravageurs, favorisées par le réchauffement climatique. Le surplus d'effet de serre garde plus fortement la chaleur dans la basse atmosphère. Il empêche le rayonnement terrestre de remonter vers la stratosphère pour le réchauffer. La différence de température entre le sol et la stratosphère augmente et met en route des phénomènes encore plus extrêmes.
Ça concerne tout ce qui est cyclones, ouragans et des orages qui seront de plus en plus violents alors.
Quelques degrés de plus en 20 000 ans ont bouleversé le visage de la Terre. Que peuvent donner quelques degrés de plus en un siècle ? C'est pour cette raison qu'un ouragan fait 1 500 morts aux États-Unis et 140 000 morts au Bangladesh. L'énergie abondante permet de faire intervenir les forces de l'ordre, les secours, évacuer les gens, acheminer la nourriture, reconstruire rapidement les maisons. C'est aussi à ça que servent les machines, faire face à n'importe quel imprévu. Dans un monde aux ressources que deviennent progressivement les contraintes, le risque, c'est le retour à la barbarie.
Ah oui, ça peut dynamiter les démocraties, la paix, la capacité de chacun à se nourrir en abondance, puis à vivre, tout bêtement.
À la fin de 2018, nous avons émis dans l'atmosphère 2250 milliards de tonnes de CO2, ce qui signifie que nous avons déjà signé pour 1,3 degré de réchauffement.
Why do you need? 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 Why do you need?
On a terminé notre lecture sur le chiffre de 1,3 degré de réchauffement.
Oh là.
C'était en 2018. Ouais. Et donc aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en 2024, j'ai plus d'une fois entendu le chiffre de plus 1,5 degré par rapport au début de l'ère pré-industrielle.
Et 1,5 degré, c'est ce qui avait été défini par la COP21 à Paris en 2015.
Exactement. Et
c'était
pourquoi...
à l'échéance. C'était un degré 5 à l'échéance.
C'était un maximum à atteindre.
Ah oui.
Et pourquoi ce chiffre, Dominique ?
Bonne question. Je n'en sais rien. Catherine ?
Eh ben, au-delà de cette augmentation qu'on a donc déjà atteint, hein, la glace de l'Antarctique va fondre et ne jouera donc plus son rôle de maintien du jet stream. Et le jet stream qui a le rôle de maintenir en place les zones froides et chaudes de l'atmosphère. Or, ce jet stream est en train de s'affaiblir. Voilà pourquoi nous avons de plus en plus de phénomènes de gouttes froides ou chaudes dont on entend parler à la météo, ce qui entraîne de plus en plus souvent des phénomènes violents dans un sens ou dans un autre.
Oui, et donc en d'autres mots, on est foutu quoi.
Et en plus, ces gens très très pessimistes, on se rend compte que par ils rapport auraient... à ce qu'on vit, ils étaient optimistes.
Oui. Mais oui.
Parce exactement. Qu'on est des que tellement la... mauvais élèves qu'on est encore pire.
Que la réalité est pire que...
À la COP21 à Paris, donc en 2015, il y avait eu plusieurs scénarios de faits. Eh bien, figurez-vous que nous sommes pires que le scénario le plus pessimiste.
Oui, parce qu'on n'entend pas.
Et on va dire que ce mouvement est désormais irréversible. Mais la seule variable qu'on ne connaît pas précisément, c'est quand, donc. Alors, la glaciologue Eddy Sevestre, vous avez lu ?
Non.
Et, bon. Et surtout, vous l'avez entendu, elle est venue à Blois et on a eu le plaisir de l'entendre. C'était un bonheur de clarté.
Ah oui.
Elle
ah
est d'une précision, c'est extraordinaire.
Et donc, elle indique 2050 comme la fin de notre ère de croissance, alors que Jean-Marc Jancovici, lui, indique plutôt 2040.
C'est-à-dire demain.
C'est-à-dire demain, exactement. À l'échelle de l'humanité, oui.
Eh bien, c'est une sacrée conclusion pour notre rentrée littéraire.
Et bien que c'était difficile, ça démontre le pouvoir des livres. Un simple roman graphique permet à un scientifique de toucher et sensibiliser un maximum de personnes, mieux que des discours de personnalités politiques que de moins en moins de gens écoutent.
Alors tu nous avais dit en début d'émission que Jancovici pouvait être controversé.
Bien,
alors pour quelle raison ?
On y vient. Eh bien donc parce qu'il est très pro-centrale nucléaire.
Ben oui.
Catherine,
son argumentation
Son argumentation est très détaillée, oui, très argumentée. Entre autres, il rappelle qu'une centrale nucléaire n'émet quasiment pas de CO2.
Ce qui est vrai.
Qu'elle est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut la commander indépendamment des conditions naturelles, vent ou soleil. Eh oui. Qu'elle nous rend moins dépendants des pays producteurs de pétrole ou de gaz. Et puis qu'elle produise peu de déchets.
Mais c'est, malheureusement, ces déchets qui posent problème.
Oui, c'est les déchets. Et l'approvisionnement en uranium aussi.
Et l'approvisionnement en uranium, ouais. Ce qui...
Aussi. Et ces déchets, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein.
Ben non.
D'où des arguments qui sont discutés, controversés.
Exactement, tu as raison, et Dominique.
Il y a des personnes qui n'hésitent pas à le contredire, à débattre avec lui et à le contredire. Oui.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que si on arrête toutes les centrales nucléaires aujourd'hui, un peu dans l'esprit de ce qu'a fait l'Allemagne, comme on n'a pas encore assez développé les énergies renouvelables, on va retourner au charbon, on va retourner au pétrole. Donc, c'est un vrai casse-tête. Oui. C'est un vrai casse-tête. Ou alors, il faut utiliser moins d'énergie. Mais à première vue, on a du mal.
Alors, Jean Covici prône quand même la décroissance, c'est-à-dire le réduire.
C'est pas qu'il la prône, c'est qu'il constate que c'est inévitable.
C'est inévitable. Ouais. On va réduire notre consommation d'énergie.
Ah, en fin de compte, le schéma est simple. Où on réduit notre consommation au détriment de notre confort, de notre bien-être, de plein de choses, où on meurt. On a le choix. Non ?
Alors, comme ça.
Et bien que ce soit moi qui ai proposé ce bouquin, je rappelle que nous sommes dans une émission littéraire, et donc ce n'est pas vraiment notre rôle quand même de continuer ce débat.
Oui.
Je propose simplement que Catherine et moi lisions un dernier extrait pour terminer l'émission.
Je sens que tu vas me vendre des centrales nucléaires.
Mais la solution ne se résume pas à ça. L'enjeu fondamental de cette discussion est de remettre les problèmes dans l'ordre. Pour une centrale nucléaire, on utilise l'uranium 235. L'uranium est un des 92 éléments disponibles sur Terre et il possède le plus gros noyau de tous.
Oui, son noyau comporte 92 protons et 143 neutrons. Tu veux que je continue sur mon savoir ? L'uranium est très dense et on se servait de l'uranium 238 qui est inoffensif pour lester la quille des bateaux. On l'a remplacé par du plomb parce que l'uranium faisait peur.
Si on envoie un neutron supplémentaire à la bonne vitesse, qui provoque donc la fission nucléaire, le noyau 235 l'absorbe. Ça lui donne une indigestion qui libère du rayonnement et de la chaleur, ainsi que quelques neutrons qui iront rencontrer un autre atome, entraînant une réaction en chaîne.
Et c'est cette fission qui libère une énergie considérable. Un gramme d'uranium peut produire autant de chaleur que 2,5 tonnes de charbon.
Ou une tonne de pétrole. Chaque fission qui libère des neutrons ne doit pas provoquer plus d'une autre fission pour que la réaction soit stable.
Stable ?
C'est-à-dire qu'il ne s'emballe pas.
Alors comment on fait ?
Eh bien, on a prévu des barres de contrôle qui absorbent les neutrons en excès.
Mmh.
Dans les réacteurs français, il faut un peu plus de 3% d'uranium 235 pour maintenir une fission efficace. L'uranium naturel n'en contient que 0,8%. Il faut donc l'enrichir.
Dans des trucs comme ça.
Exactement, à 3%, ça ne risque pas d'exploser. Il faut plus de 99% d'enrichissement pour faire une bombe. Au fond, une centrale nucléaire, c'est une grosse bouilloire compliquée qui produit de la vapeur pour faire tourner des turbines.
Un réacteur de 1 milliard de watts, c'est-à-dire 1 gigawatt, c'est une énergie hyper concentrée. Une très petite quantité de matière produit une grande quantité d'énergie. De l'autre côté, tu prends une centrale solaire de 1 gigawatt, c'est une énergie diffuse. Il y a besoin de tellement d'espace que ça commence à empiéter sur les forêts, les cultures et les espaces protégés.
À cause de leur caractère très diffus, le solaire et l'éolien demandent 10 à 100 fois plus de métal au kilowattheure. 10 à 100 fois plus de ciment. L'éolienne est ancrée dans le sol par un plot de béton armé, affleurant qui reste parfois en place après démantèlement.
Pour le nucléaire, il faut des mines pour extraire l'uranium, de l'énergie pour l'enrichir, du béton pour la centrale, mais c'est une énergie tellement concentrée qu'au final, on émet très peu de CO2 par kilowattheure produit. Pour les centrales électriques, il y a une notion importante qui s'appelle le facteur de charge. Par exemple, à la fin de l'année, une centrale à gaz ou à charbon aura généralement produit comme si elle tournait en permanence à la moitié de sa puissance maximale. On dit alors que son facteur de charge est de 50%. Donc, tu as une perte en stockant l'électricité, c'est ça ?
Entre 20 et 40%. Tu dois donc augmenter la production, donc les moyens mobilisés d'autant. Mais il faut construire des batteries pour stocker. Les batteries demandent à nouveau de la métallurgie et de la chimie.
Mais alors, le nucléaire est donc plus efficace, c'est ça ?
Exactement.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
On l'avait dit que ce serait périlleux. Hein.
Ah bah oui, ça va être compliqué au montage.
Non, mais je crois que ce qu'a dit Hervé au début est important. Enfin, c'est important de le répéter.
Nous sommes dans une émission littéraire. Oui. On a essayé de lire un roman graphique, ce qui s'est avéré effectivement très compliqué. Mais nous ne sommes pas des scientifiques.
Voilà, et c'est surtout que peut-être dans nos maladresses de lecture, on peut parfois ne pas donner l'impression d'une exactitude scientifique. Donc, le but, humblement, on voulait vous faire connaître ce livre, car nous pensons que c'est important.
C'est une référence.
C'est une référence, qu'on soit d'accord ou pas. En tout cas, c'est une base de réflexion, maintenant, avec la faiblesse des littéraires.
Tout à fait. Mais oui. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, ça nous paraît
important. Ou l'emprunter à la bibliothèque. En trois semaines, tu as le temps de le lire quand même.
Est-ce qu'on rappelle le titre du...
J'espère.
Non, non.
Oh. Donc,
on t'écoute, Hervé.
Ça s'appelle « Le monde sans fin » de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin aux éditions d'Argo.
Voilà.
Et juste un mot pour essayer d'avoir une petite note optimiste.
Oui.
C'est quand même très dur.
Parce
quand
que
vous fermez
plombant,
complètement le livre, il y a encore deux petites bulles, deux petits dessins, et nous avons un échange. Mais c'est la fin du monde, Jean-Marc. Et Jean Covici répond,
idéalement
pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Et ben voilà.
Bien, et bien pour cette rentrée de septembre, on a peut-être un petit peu plombé l'atmosphère. Hein.
Ah ben c'est un peu une réalité, non?
C'est un peu, ah, oui.
Plombé l'atmosphère, excellent jeu de mots, de midi.
On peut dire ça.
Ouais,
voilà.
Oui, tout à fait.
Eh bien, on essaiera de reprendre autre chose le
plus
mois
léger.
Prochain. De quelque chose de plus léger. Vous avez une petite idée pour le mois prochain?
Évidemment, aucune. Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Non.
Catherine?
Non. Mais j'ai lu beaucoup de choses cet été, mais je n'ai pas encore fait le choix.
D'ici à en faire une émission.
Très bien. Eh bien, bonsoir Hervé, bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs, et au mois prochain.